Il est 9h sur France Culture, le journal est présenté par Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. Verdict attendu ce soir pour savoir si Ursula von der Leyen a réussi ou pas à convaincre le Parlement européen de sa capacité à présider la Commission européenne. Les eurodéputés vont voter ce soir pour en décider et l'attitude des eurosceptiques pourrait faire pencher la balance en sa faveur, mais ce soutien serait embarrassant pour la ministre allemande proche d'Angela Merkel. Le vote débutera dans l'hémicycle à Strasbourg à 18h et son résultat devrait être annoncé aux alentours de 20h. Une élection qui ne passionne pas les Britanniques et pour cause, ils sont occupés à suivre leur propre campagne, celle qui vise à remplacer Theresa May et à rendre plus claire leur position par rapport à l'Europe. Hier, les deux candidats encore en course se sont affrontés dans un débat organisé par le tabloïd conservateur The Sun. Boris Johnson reste toujours largement en tête des sondages, mais Jeremy Hunt a su gagner du terrain à Londres. Le compte-rendu de Marina.
Le Brexit continue évidemment d'accaparer cette campagne. Dans l'audience, une jeune conservatrice demande tout d'abord à Jeremy Hunt, puis à Boris Johnson s'il préférerait déclencher de nouvelles élections législatives ou organiser un second référendum si, comme Theresa May, il se retrouve dans l'incapacité de faire voter leur accord.
Je refuse ces deux solutions. Je pense qu'il est dangereux de s'obstiner avec cette date du 31 octobre dont parle Boris. Car si vous dites que vous sortez à cette date et que le Parlement bloque ça, le seul moyen de tenir la promesse faite aux Britanniques, c'est de changer le Parlement, de tenir des élections. Et si on a des élections avant le Brexit, on aura une coalition travailliste, libéraux-démocrate et pas de Brexit du tout.
Je ne veux ni de l'un ni de l'autre. Ce qui augmente le risque d'élection d'un gouvernement travailliste, c'est précisément de continuer à retarder notre sortie de l'UE. Parce que les gens en ont marre et qu'ils nous voient échouer à franchir la ligne du Brexit. Et je ne pense pas que nous nous en remettrons si nous retardons encore une fois.
Et une fois de plus, Donald Trump s'est invité dans la course à Downing Street. Boris Johnson et Jeremy Hunt ont tous deux condamné les propos du président américain qui a dit à quatre élus démocrates issus de l'immigration de rentrer dans leur pays. Mais aucun des deux candidats n'a osé parler de racisme pour ne pas entacher la relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis.
Et sur le dossier d'immigration américaine aux États-Unis, justement, le Mexique a réagi hier à la décision de Washington de verrouiller encore plus l'accès à l'asile. Une nouvelle règle précise que les demandes d'asile formulées à la frontière sud des États-Unis seront refusées à tout migrant n'ayant pas réclamé au préalable la protection d'un pays tiers. Les explications de Loïc Loury.
Les États-Unis sont généreux mais complètement débordés. Voilà la raison avancée par le ministre de la Justice pour expliquer la mise en place de cette nouvelle règle. Objectif, selon Bill Barr, décourager les migrants économiques qui veulent exploiter, dit-il, notre système d'asile. Et de fait, cette législation est particulièrement restrictive et marque un pas de plus dans la guerre menée par Donald Trump contre l'immigration venue du Sud. Sur le papier, chaque migrant arrivé à cette frontière ne pourra plus demander l'asile aux États-Unis après être passé par un pays tiers, en particulier le Mexique. Le texte concerne également les enfants seuls et ne comprend que quelques exceptions, notamment pour ceux dont la demande d'asile a été rejetée par les pays traversés. Il faut dire que chaque mois, des dizaines de milliers de familles venues d'Amérique centrale arrivent aux États-Unis. Ce rythme a diminué suite à un accord avec le Mexique, mais les tribunaux ont 800 000 demandes d'asile de retard à examiner. La nouvelle loi, toutefois, devrait être attaquée devant les tribunaux. Elle n'est pas conforme aux droits selon l'ACLU, une puissante association garante des libertés. Jusque-là, les politiques mises en place par Donald Trump, sa rhétorique toujours plus dure, n'ont pas empêché des milliers de migrants de prendre la route des États-Unis.
En France, Marine Le Pen est convoquée aujourd'hui devant un juge d'instruction de Versailles en vue d'une possible mise en examen. Une convocation qui fait suite à la publication par la patronne du RN de photos d'exaction du groupe État islamique sur Twitter. Les explications de Florence Turm.
C'est en quelque sorte une affaire dans l'affaire. En décembre 2015, quelques jours après les attentats de novembre, Marine Le Pen publie trois photos sur son compte Twitter. Celle d'un soldat syrien écrasé par un char, d'un pilote jordanien brûlé vif et du corps décapité du journaliste américain James Foley. Photographie accompagnée de la mention « Daesh, c'est ça » en réponse au journaliste Jean-Jacques Bourdin qu'elle accuse d'avoir fait un parallèle entre le groupe État islamique et le Front National. Tollé au sein de la classe politique, le parquet ouvre une information judiciaire pour diffusion d'images violentes payante. Et au cours de son instruction, la juge saisie du dossier va délivrer une ordonnance d'expertise psychiatrique de Marine Le Pen, possibilité prévue par la loi, mais que la présidente du Rassemblement National dénonce comme un acharnement à son encontre. Elle annonce qu'elle ne s'y rendra pas et publie dans la foulée, toujours sur Twitter, le document ordonnant cette expertise et signé par la magistrate, ce qui lui vaut cette nouvelle convocation en justice qui pourrait se traduire par une mise en examen. La loi interdit la publication d'un acte de procédure judiciaire avant une audience publique. L'instruction principale est maintenant bouclée. Pour avoir publié ces photos d'exactions, Marine Le Pen et Gilbert Collard vont devoir comparaître en correctionnel pour un procès dont la date reste encore à fixer.
La reconstruction de Notre-Dame en question devant les députés. Aujourd'hui, ils devront voter le texte en dernière lecture au moment où l'on apprend que seuls 10% des promesses de dons pour la cathédrale sont concrétisées à ce jour. Des promesses de dons qui se montaient il y a 3 mois à 850 millions d'euros. Galileo est en panne et ce depuis presque 5 jours. Le système de GPS européen ne fonctionne plus selon l'agence de l'Union européenne chargée de sa mise en place. Galileo était déjà accessible par les nouvelles générations de téléphones, les véhicules connectés, les chemins de fer ou encore l'aviation. Au total, entre les particuliers, les entreprises et les États, on estime ses utilisateurs à entre 2 et 300 millions de personnes. Alors cette panne tombe mal, d'autant qu'on ne sait pas vraiment à quoi elle est due. Les explications d'Oana Favenec.
On ne connaît pas l'origine précise de la panne. Le communiqué de GSA, l'agence européenne des systèmes de navigation par satellite, est succinct, assez vague. Quelques mots évoquant une panne de service liée à un incident technique. Toujours est-il qu'aucun des satellites de Galileo déjà mis en orbite n'était opérationnel ce lundi. Seul le service de recherche et de sauvetage était épargné. C'est celui qui est utilisé en mer ou en montagne en cas de disparition de personnes. Il faut garder en tête que Galileo, qui sera pleinement opérationnel en 2020, vise à devenir un GPS européen indépendant. Pour l'instant, pour être utilisé, ces données sont complétées par le réel système GPS, celui qui est piloté par l'armée américaine, ou encore par exemple par les informations de GLONASS, chapeautées par le gouvernement russe. Pour s'extraire de cette dépendance, les Européens ont investi beaucoup, 13 milliards d'euros, et cette panne n'intervient pas au meilleur moment. La semaine dernière, la fusée Vega ratait sa mission en Guyane, sans raison apparente. Un satellite lancé pour le compte des Émirats Arabes Unis était perdu dans la manœuvre. Nous protégerons mieux nos satellites, y compris de manière active, promettait samedi Emmanuel Macron au moment d'annoncer la création d'un commandement militaire de l'espace en septembre.
Oana Favenec, le temps de ce mardi, beau partout, un ciel à peine perturbé par quelques nuages d'altitude, compté au plus chaud de 22 à 33 degrés cet après-midi du nord au sud. Ces journaux ont été réalisés avec Emmanuel Faucillon et François-Charles Domergue. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 12h30 avec Lisa Guyenne. En attendant, excellente matinée sur France Culture.